Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à foutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je suis porté.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour, nous sommes le mercredi 28 mars, c'est le printemps déjà. Et Cinérama continue. Bonjour Marine, bonjour.
Bonjour.
Manu. Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Et bien comme toujours, un sommaire avec des films qui sortent aujourd'hui et puis des films qui sont déjà sortis sur les écrans. Quel est le programme aujourd'hui, Marine? On commence par toi.
Alors moi, je vais vous parler de Bye Bye Blondie et ça sera un peu l'occasion de revenir sur l'œuvre de la grande Virginie Despentes. Enfin, du moins, je vais essayer. Et je vous parlerai aussi dans un tout autre registre de Hunger Games. Et toi, Manu?
Et ben moi, ce sera La course à la mort de l'an 2000, donc, qui est diffusée donc, demain à Utopia à 20h30 dans le cadre de l'absurde séance.
Et puis, eh bien, nous aurons deux interviews. La première, ce sera celle d'Henri Talva. Henri Talva, l'ancien adjoint à la culture de la ville de Montpellier, qui est aussi président du festival Cinémed et vice-président du ciné-club Jean Vigo. Et puis, il se trouve eh bien, que ces deux entités organisent ce week-end un week-end positif. Alors, c'est un petit week-end, vendredi et samedi, où ils fêtent finalement eh bien, les 60 ans de la revue Positif, créée donc en 1952. On l'écoutera parler eh bien, du pourquoi et du comment. Et puis, on verra eh bien, ce qui s'y déroule. Et puis, eh bien, c'était la semaine dernière, on devait diffuser l'interview de Merzak Alouache, le réalisateur algérien qui a sorti eh bien, son film Normal la semaine dernière. Eh bien, cette fois-ci, on pense être en mesure de la diffuser. Ce sera en toute fin d'émission. Mais avant tout cela, on commence par Today's in New York.
Qui êtes-vous?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Sur Divergence FM.
C'était au début de l'été 2007, Julie Delpy sortait « Today's in Paris », une comédie s'amusant des clichés sur les Français et les Américains, mais chargeant davantage les Français, puisque dans ce film, elle présentait son copain à sa famille et ses amis. C'était la vision d'une Julie Delpy qui, ayant vécu une partie de sa vie aux États-Unis, est plus à l'aise pour grossir les défauts et s'en amuser. Alors si le film était une drôlerie et d'une décontraction réjouissante, il ne s'agissait pas seulement de rire, et le séjour du couple à Paris devenait un enjeu, l'occasion d'éprouver leur amour, et on quittait le couple avec ces paroles.
Il y a un moment où on peut plus se remettre d'une autre séparation. Et que même si cette personne vous emmerde 60% du temps, eh ben on peut pas vivre sans elle. Que même s'il vous réveille tous les matins en vous éternuant en pleine figure, eh bien on préfère ses éternuements à tous les baisers des autres.
Alors, on pouvait se poser des questions sur les 60% du temps acceptable pour rester avec quelqu'un, à chacun de mettre la barre plus haute ou un cran en dessous. Nous voilà maintenant donc en 2012, mais cette fois-ci à New York pour un titre attendu, donc « Today's in New York ». On retrouve encore Marion, interprétée par Julie Delpy, qui était comédienne avant d'être réalisatrice. On y retrouve son père, Jeannot, déjà présent à Paris, le vrai père de Delpy, un gros barbu obsédé qui ne comprend rien à l'anglais et qui mange la bouche pleine. Sa sœur, psychologue pour enfants, avec une personnalité exhibitionniste tendance nymphomane. Et puis on a aussi son copain, un type égocentrique tendance infidèle. Et puis des enfants. L'un est celui que Marion a eu avec l'homme qu'elle avait emmené à Paris. Et l'autre, la fille de son nouveau petit ami Mingus, car oui, ils se sont séparés. Julie Delpy ne souhaitait pas faire une suite en prolongeant l'histoire amoureuse, un parti pris affiché tout net puisque son nouveau boyfriend, interprété par Chris Rock, est noir, histoire d'éviter toute confusion avec le premier opus, et c'est aussi un prétexte à ajouter des petits ingrédients satiriques autour de l'image de l'afro-américain. Alors lui, c'est un animateur radio plutôt à l'aise dans ses baskets qui ne vient pas des bas-fonds de Brooklyn et qui se confie à un Barack Obama en carton grandeur nature ou quasi posé dans un des coins de son bureau. Alors Marion est toujours grande gueule, toujours photographe, sans réel succès, à tel point qu'elle décide pour gagner plus d'argent de faire une œuvre conceptuelle, vendre son âme à l'occasion du vernissage de son exposition, vernissage qui est l'excuse toute trouvée pour faire venir sa famille à New York. Alors le premier contact entre Mingus et la famille est comparable à ce qu'on avait connu dans Today's in Paris, disons que ça baffre, ça crie, ça s'engueule et puis ça rit, ça se réconcilie, donc ça donne à peu près ça, c'est une scène en revanche de Today's in Paris.
Blanc.
Anna, tu me donnes ton assiette,
non,
Anna.
Non, I don't want.
Quel casse-couille.
Bon, mais ça va, papa, hein, tu t'es bien servi, c'est ton régime, là, c'est
mais
ça?
C'est de la viande maigre, le lapin.
Bon, enfin, quand même, t'as vu ce que tu enfiles.
Et toi, tu as vu ton gros cul?
Allez. Mais il est malade ce mec. Ouais, bah j'ai un gros cul parce que j'ai arrêté de fumer il y a un an et demi et voilà. Mais si tu veux, je recommence
suffit.
À fumer, hein.
Oh, ça suffit, t'arrêtes de l'emmerder, oui ou merde.
Mais c'est elle qui arrête pas de nous emmerder.
Amélie,
elle vient de New York simplement pour nous faire chier.
Nothing to do with you. Arrête, connard.
Non mais écoutez, on peut être un peu civilisé. Mon mec est à la table, il vient de loin, etc. J'aimerais bien qu'on lui parle un peu.
Eh ben on va lui parler. À Jack. Allez, on va sur la littérature américaine.
Kerouac.
Yes, I love Kerouac. J'aime Kerouac. Yeah, on the
Faulkner.
Road. Is he quizzing me?
It's a little welcome quiz.
Faulkner.
Il faudra donc beaucoup de patience, hein, Mingus, pour accepter cette famille qui débarque dans son environnement. C'est quoi qu'il en soit une situation qu'il a du mal à supporter. C'est donc sur le couple, encore une fois, hein, que cette visite va déteindre plus que sur les relations franco-américaines. Elle applique sur le vernis de la drôlerie, Julie Delpy, la petite dose de réflexion sur les rapports amoureux, sur la place de la famille. Alors les conclusions qu'elle tire cette fois-ci sont un peu plus convenues, mais la partie comédie est bien au rendez-vous. Les personnages posés dans leur excès, Delpy enchaîne les situations cocasses, absurdes, gratuites parfois, comme lorsqu'elle se moque du milieu de l'art et de la suffisance des critiques. Elle s'appuie aussi sur des running gags qui font mouche, bref, des ingrédients de base relevés par des dialogues percutants. Le rythme ne faiblit jamais. Alors le petit plus, c'est que Delpy s'amuse à résumer la carte postale new-yorkaise en une séquence clipesque avec des images qui défilent rapidement, le tout sur une musique qui est là, composée elle-même. Donc Delpy, dans ce film, est actrice, réalisatrice, compositrice, et puis tant qu'on y est, eh bien, elle est aussi productrice. Voilà, donc elle fait à peu près tout. La maîtrise est là, et elle a trouvé avec cette Today's une formule plutôt efficace, même si ça fonctionne un peu moins bien que Today's in Paris. Voilà, enfin, tant au niveau des situations qu'au niveau des dialogues, et puis eh bien, de ce qu'elle fait, de comment elle fait interagir cette histoire, cette comédie sur le couple qu'elle a construit cette fois-ci dans ce film. Today's in New York sort aujourd'hui sur les écrans, c'est projeté au cinéma Diagonal et puis aussi au Gaumont Multiplex, et tout cela en VO sous-titré.
Cinérama.
Bon, est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, Fourrière et compagnie ?
Sur Divergence FM.
Virginie Despentes avait pour première passion le cinéma, puisqu'elle commencera des études assez vite abandonnées dans ce domaine. Elle se lance dans l'écriture en publiant le roman choc Baise-moi, dans lequel elle balance pêle-mêle sa conception particulière du féminisme, sa révolte contre la domination masculine et sa vision peu élogieuse de la société consumériste. C'est son troisième roman, Les Jolies Choses, qui sera adapté en premier au cinéma. Alors qu'elle est déjà une icône de la contre-culture et de la nouvelle littérature française, un ouvrage qu'elle déclare avoir écrit en 4 jours sous cocaïne et qui recevra le prix de Flore. Réalisé par Gilles Paquet-Brenner en 2000, Les Jolies Choses offre son premier grand rôle à Marion Cotillard, qui n'avait alors, rappelez-vous, qu'à son effectif la série des Taxis. Un film très ancré dans son époque, puisque l'on y trouvera Patrick Bruel, Tommy Bugsy et même Ophélie Winter, qui partage avec Marion Cotillard des scènes d'amour dont elle ne doit plus trop se vanter maintenant auprès de Soderbergh ou de Scorsese. Alors si elle s'en sort avec les honneurs en jouant un double rôle dans cette histoire de jeune fille rebelle qui prend la place de sa sœur chanteuse, le reste du film s'avère être un empilement de clichés sur le showbiz, bien calibré pour la cible adolescente, clippé comme du mauvais Yann Kounen dont le réalisateur se revendique à tort. Quelques rares passages rendent tout de même hommage à la prose virulente de Virginie Despentes, sans pour autant faire honneur au ton incisif de son roman.
Après des siècles d'interdiction de montrer, femmes sommées d'exhiber qu'elles ont bien tout aux normes, qu'elles se sont calibrées, voilà mes jambes interminables, glabres et hâlées, mon ventre plat, nombril percé, mes seins énormes, fermes et moulés, mes cils sont longs, mes cheveux brillants. Consternation. Sur un ton de connivence amusée, foison de petits conseils pour être une putain à la page, et se mêlant de tout, que tout rentre dans les cases, et comment il faut jouir. Se teindre jusqu'au poil pubien, et comment on doit être du dedans ou dehors. Ton faussement débonnaire, propagande imbécile pour être comme il faut.
Virginie Despentes décidera d'adapter elle-même dans la foulée son roman Baise-moi, en s'associant à la réalisatrice porno Coralie Trinhi. Provoquant un raz-de-marée lors de sa sortie, Baise-moi ne connaîtra pas de réelle carrière au cinéma à cause de son interdiction aux moins de 18 ans. Trop enragé pour être regardable, Baise-moi souffre d'une image immonde prise en lumière réelle et du jeu des actrices anciennement hardeuses qui jouent comme elles le peuvent dans un registre supposé nihiliste. Alors si la volonté de Virginie Despentes était d'abolir les frontières entre porno et films classiques, en montrant les scènes crues de manière frontale, l'intention se perd rapidement dans un enchaînement de scènes complaisantes qui font vite oublier au spectateur qu'il s'agit là d'un brûlot féministe mûrement réfléchi.
Allez, c'est rien à côté de ce qu'ils peuvent faire. On a encore envie, non?
Putain, mais comment tu peux dire ça?
Je peux dire ça parce que j'en ai rien à foutre de leurs pauvres bites de branleurs. J'en ai pris d'autres dans le ventre et que je les emmerde. C'est comme une voiture que tu gardes dans une cité, tu laisses pas des trucs de valeur à l'intérieur parce que tu peux pas empêcher qu'elle soit forcée. Hein. Ma chatte, je peux pas empêcher les connards d'y entrer, j'ai rien laissé de précieux.
Un petit moment de poésie. Donc en laissant de côté les réflexions introspectives auxquelles elle se livrait dans son livre, Despentes pousse le mauvais goût jusqu'à rajouter des scènes d'orgie et de tuerie, ce qui achèvera finalement de rendre son film totalement incompréhensible aux yeux du monde. Pour Bye Bye Blondie, elle semble être revenue à la raison, consciente peut-être que trop de révolte tue le message à faire passer et que le cinéma français, eh bien, aime la sobriété. Emmanuelle Béard joue une célèbre présentatrice télévisée qui retrouve son amour d'adolescence, une marginale campée par Béatrice Dalle et décide de la ramener à Paris au milieu de sa vie bien rangée.
Ça fait drôle de te revoir.
J'ai pas le temps avec toi, la princesse.
Même pas pour prendre un verre?
La saveur d'eau, juste la saveur d'eau.
C'est pas ma saveur d'humour. C'est un amour d'adolescence. Le vrai.
Pourquoi tu lui as demandé de venir s'installer chez nous? T'as bien conscience qu'elle est complètement folle.
Elle est punk rock.
Avec le temps va, tout s'en va.
T'en fais pas, ça va te plaire le bonheur.
Moi je te parle d'une fille, de ça tu me parles de retour de là? Embrasse-moi.
T'as peur qu'on te voit avec une meuf et que du coup les gens ils se mettent à jaser?
Ici Gloria t'es un pitbull, mais là-bas tu vas te faire bouffer comme un agneau.
Moi j'ai pas l'habitude de me cacher, je te jure je commence à me demander ce que je fous là. Excuse-moi connasse.
Pauvre fille.
Le jour où tu vas devoir annuler 15 jours d'émission parce qu'elle t'aura bousillé l'arcade sourcilière sous prétexte que tu lui auras dit un mot de travers. Pas d'étonnement, hein, c'est qu'elle aura juste essayé de communiquer avec toi.
Comment il est notre amour? Il est tout petit, il est tout faible, tout tenant.
Tu te trompes? Non, on a s'est trompé.
Décrivant le cinéma actuel comme du cinéma familial qui sert à faire manger du pop-corn, ce sur quoi nous partageons d'ailleurs le même avis, Virginie Despentes a tenté pour sa deuxième réalisation d'aller à l'encontre de ce standard sans retomber dans la provocation. Soucieuse de sortir des chemins balisés du cinéma et des représentations banalisées des histoires d'amour, elle filme le couple féminin central de la manière la plus naturelle et la plus sobre qui soit. Virginie Despentes a prétendu n'avoir pas voulu montrer de scènes de sexe explicites, ce qui n'avait pourtant pas trop dérangé dans Baise-moi, afin de ne pas verser dans les clichés de films lesbiens et de ne pas, ouvrez les guillemets, exciter les mâles hétéros. Alors je confirme, ça a très bien marché, il n'y avait pas un mec dans la salle. Hein. Ça au moins c'est fait. Donc son film, qu'elle définit comme une romance lesbienne punk, aussi entre le teen movie et la comédie romantique, en ressuscitant avec pas mal de véracité le mouvement punk rock des années 80. Mais l'intérêt de Bye Bye Blondie réside surtout dans la confrontation Emmanuelle Béard-Béatrice Dalle et dans celle de leur alter ego adolescent qui transforme le film en histoire d'amour universelle et non en manifeste communautaire. Et puis, ben, bonne nouvelle, on y retrouve Stomy Bugsy, aussi improbable que cela puisse paraître. Mais alors depuis les années 80, ça a été la dégringolade sociale puisqu'on l'avait quitté dans un premier rôle et là on le retrouve en chauffeur de Emmanuelle Béard. C'est l'univers impitoyable du cinéma. En revanche, hormis le casting, la réalisation bien, s'avère plutôt mauvaise, truffée de faux raccords, de changements de cadre fantaisistes, voire inutiles. Et si Despentes sait très bien parler du milieu lesbien, elle ne peut pas s'empêcher de tomber dans la caricature lorsqu'elle évoque la jet-set parisienne. Bon, il se trouvait de toute façon qu'à mon humble avis, c'était pas vraiment son livre le plus intéressant à adapter. Moi, je pense qu'elle aurait dû plutôt s'intéresser à Apocalypse Bébé, qui est son dernier roman et qui avait reçu le prix Renaudot il y a 2 ans. Bon, voilà, ce serait peut-être pour la prochaine fois.
En tout cas, tu parles des forts accords. Rien qu'en entendant la bande-annonce, j'ai l'impression que c'est du pur son à la française, mais vraiment radical. C'est-à-dire que...
Dans le sens où ça a été mal fait ?
Dans le sens où on ne comprend pas forcément ce qui se dit. Enfin, moi, je n'ai pas tout compris, tout capté. Alors, je sais pas si
En même temps, les deux actrices ont de très grosses bouches, alors ça empêche un petit peu de bien articuler, je pense.
C'est possible, mais voilà, je ne suis pas sûr que ce soit qu'un problème d'articulation.
Bon, en tout cas, si vous souhaitez le voir, ça passe encore une semaine au Diagonale.
Et ça passe aussi au Gaumont Multiplex.
Ah bon ?
Si on préfère une plus grande salle avec les pop-corn, les fameux...
Cinérama. Cinérama, je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
C'est maintenant l'absurde séance, Manu.
Oui, donc la course à la mort de l'an 2000 ou Death Race. Opportuniste, Roger Corman l'est assurément, pas de doute à ce sujet. Le nabab de la série B, voire Z, a de la suite dans les idées. À l'époque, donc vers 75, le succès des Dents de la Mer l'amène à produire Piranha, la guerre des étoiles entraîne les mercenaires de l'espace et Alien un certain mutant. En 1975 sort donc sur les écrans Rollerball de Norman Jewison, un film d'anticipation sur un sport nouveau où tous les coups sont permis. Le Rollerball mélange le hockey et le football américain assaisonné d'une bonne dose de violence. Pamphlet efficace sur la dérive d'une société dominée par les médias et le sport, Rollerball ne tardera pas à faire des petits. Inventif et malin, Corman, plutôt que de réaliser une pâle copie du classique de Jewison, décide de porter à l'écran une nouvelle d'Ib Melchior, The Racer. Il confie donc le projet à un jeune talent prometteur, Paul Bartel, qui n'a jusque-là à son actif qu'une petite comédie horrifique, Private Parts. Corman rêvait donc d'un ultime film d'action bourrin avec bolide en furie, cascade et explosion, mais Bartel, peu intéressé par les courses de bagnole, accepte de diriger le film à condition de réécrire le scénario original, qu'il juge trop sérieux à son goût. En détournant donc les intentions initiales, il oriente Death Race du côté de la satire sociale dans un esprit décomplexé proche des cartoons. Sceptique, Corman n'imposa que deux choses au cahier des charges, comme d'habitude, du cul et de la violence. Il ne faut donc pas s'étonner d'assister à une séquence totalement stupide où une demi-douzaine de playmates seins nus batifolent à l'écran sans que le scénario le justifie du tout. Donc, ensuite, Bartel ne lésine pas non plus sur un délire trash avec tête coupée, corps mutilé et empalé, flot d'hémoglobine. Le contrat est rempli. En contrepartie, du coup, le réalisateur va jouir d'une liberté totale malgré un budget dérisoire.
Oh, chère immense et lumineuse foule, vous les sportifs américains, mes frères, ce jour nous fêtons la 20e édition de la grande course transcontinentale. Ce jour, devant vous, les plus valeureux parmi les femmes et les hommes de la plus valeureuse des nations vont risquer leur jeune vie dans un événement sportif inégalé depuis Spartacus. Dans 3 jours, un nouveau pilote sera champion d'Amérique et l'on verra le monde se prosterner en extase devant le prince de la violence.
Vous trouvez pas que le doubleur se prend pour le général de Gaulle?
Ça m'a fait ça.
Mais... Donc Death Race est une version cynique et adulte d'un dessin animé culte des années 80 qui s'appelait Les Fous du Volant. Dans un futur dominé par un état totalitaire se déroule donc une course automobile où la vie ne pèse pas lourd. Au contraire, les participants peuvent écraser n'importe quel individu, ça leur apporte des points pour leur classement. Les faibles, les vieux donc et les bébés, sont évidemment ceux qui sont les plus précieux. Dans une séquence devenue culte, des infirmières d'un hospice installent même des petits vieux au milieu de la route, attendant sagement sur le côté qu'ils se fassent tous écraser. La suite, très drôle, que je ne dévoilerai pas, ne se passe pas tout à fait comme prévu. Donc, description ludique d'un univers autocratique, Death Race est un pur produit d'exploitation, décomplexé et jouissif, agrémenté d'une bonne dose d'humour noir. Si Bartel égratigne le système, il ne fait pas de cadeau aux rebelles, présentés comme des terroristes en puissance.
C'est un vrai cimetière, on ne touchera jamais rien.
C'est toi la navigatrice, c'est ton problème. Démerde-toi, sinon tu seras la deuxième Cléopâtre mordue par un serpent.
Est-ce que c'est de ma faute si tout le monde marque des points avant nous? Il fallait foncer sur le campement d'éclaireurs, comme je l'avais suggéré.
J'ai essayé un jour d'en attraper toute une troupe. Ils courent vite, ces salopards-là, un peu trop vite.
Voilà quelque chose qui est plus à ta portée.
J'ai l'impression que ça doit faire au moins 200 points.
S'ils se séparaient, il faudrait viser le bébé et sa mère. Écrase le bébé, le bébé!
Vas-y. Tamponne, bébé.
Bonne nuit, bébé. Ça va faire au moins 70 points.
Donc Paul Bartel ne verse jamais dans la parodie facile. Il garde un cap et livre au final une œuvre de commande contenant plusieurs niveaux de lecture. La part subversive de cette critique amusée des médias et du sport comme opium du peuple anticipe quelques années avant une œuvre majeure comme Starship Trooper. Le prix du danger d'Yves Boisset et sa pâle photocopie Running Man s'inspirent quand même beaucoup de cette production très 70s. Rythmé et divertissant, Death Race parvient grâce à un montage nerveux à masquer quand même ses nombreux défauts formels. Les effets spéciaux sont très rudimentaires, les décors futuristes peints en arrière-plan sont quand même risibles et surtout, les faux raccords se bousculent au portillon, dont un surréaliste, la coéquipière de John Carradine, elle enlève deux fois ses bas dans un plan, dans une séquence assez assez
drôle. Deux fois plus de plaisir.
Donc enfin, on ne peut pas parler de cette série B culte aujourd'hui sans évoquer les deux comédiens. David Carradine avait déjà été remarqué dans deux films de Martin Scorsese, Bertha Boxart et Mean Street, mais c'est surtout la série Kung Fu à l'époque qui le fit connaître du grand public. Donc là, dans Death Race, il incarne Frankenstein, un pilote affublé d'un masque SM, anti-héros impassible et ambigu. Donc face à lui, il fallait trouver un jeune acteur inconnu pour interpréter le vrai méchant du film. Et donc c'est Sylvester Stallone, apparu jusque-là uniquement dans Bananas et puis dans un film érotique aussi, je crois, Les Talons Italiens, il me semble. Donc il donne la réplique dans un rôle de méchant où il cabotine vraiment comme un fou. En roue libre, Stallone n'est pas là un grand acteur, mais son jeu déviant avec sa bouche tout le temps de travers, c'est assez intriguant à le voir jeune en fait. De plus, il ne rejouera jamais les Bad Boys. Hein. Il aura toujours des rôles positifs par la suite. Et je crois que c'est son seul rôle de méchant, il me semble. Oui. Profitons-en. Alors, un dernier mot. Hein, c'est pas la peine d'aller voir le remake inutile de Paul Anderson, Death Race, qui est sorti il y a 2-3 ans sur les écrans. Donc, qui en fait enlève toute l'ironie de l'original. Et puis, redécouvrez la perle de Paul Bartel. Donc, demain soir à 20h30 au cinéma Utopia. Et Paul Bartel, d'ailleurs, ne refera jamais un aussi bon film. Il fera une sorte de suite déguisée avec Cannonball l'année d'après, avec Carradine aussi, mais c'est beaucoup moins intéressant. Voilà.
Et donc, tu as participé au choix de ce film, hein ?
Oui, bien sûr. Alors, on était deux, moi et donc Arnaud Pasquier, quoi, qui était donc lui très intéressé de le passer. Et moi aussi.
Pourquoi vous avez choisi celui-ci, ce Death Race, plutôt que Rollerball notamment, que tu as cité tout à l'heure, qui est aussi un film ?
Parce que Rollerball est quand même un film très mainstream, très sérieux. Hein. Norman Jewison, c'est le réalisateur de Dans la chaleur de la nuit. C'était un réalisateur hollywoodien de studio respectable. Alors que là, on a vraiment affaire à une série B qui a été tournée avec un budget vraiment, vraiment dérisoire. Et puis, je trouve paradoxalement que Death Race est plus réussi, notamment pour le côté ironie et très méchant. Voilà.
Alors, comme à l'occasion de ces absurdes séances, on peut venir déguiser. Alors là, c'est quoi le déguisement ? Tenue de pilote avec tête de mort
Masque SM.
Masque SM, ouais. Tenue de motard. Je ne sais pas si vous avez des combinaisons de motards, ça peut le faire. Hein. Après, il y a aussi dedans un homme, je crois que c'est une équipe qui sont déguisés en néo-nazis. voilà.
Ce sera du plus bel effet.
Donc en fait, on peut se déguiser en ce qu'on veut.
Oui, pas de problème. Donc c'est demain soir, c'est l'absurde séance au cinéma Utopia, 20h30. Hein,
oui, 20h30.
Avec des cadeaux à gagner.
Cinérama sur Divergence FM.
Et bien maintenant, c'est sans transition que nous allons passer de l'absurde séance et la série B au week-end positif organisé à Salle Rabelais à Montpellier ce week-end. Donc c'est Henri Talva qui va nous en parler, lui qui aime tant le cinéma.
En mai 1952, à Lyon, quelques étudiants de Cagnes, Guy Jacob, André Ottavi et surtout Bernard Charder, créent Positif, la revue mensuelle du cinéma.
Bonjour Henri Talva, vous êtes président du festival Cinémed et puis aussi vice-président du ciné-club Jean Vigo.
Bonjour.
Et il se trouve que vous êtes là pour nous parler du week-end positif.
Vendredi, ouais. Soir et samedi toute la journée.
Donc petit week-end et positif du nom de la revue de cinéma. Alors ma première question, elle est simple hein, finalement. Pourquoi avoir choisi de fêter ces 60 ans de cette revue positive, parce qu'il y a quand même deux revues hein, qu'on connaît très bien. Il y a les Cahiers du cinéma, qui sont nés avant Positif, et puis il y a Positif. Alors pourquoi ce choix de la revue Positif ?
Parce que ça fait longtemps qu'on est des accros à Positif depuis longtemps, et parce que, en fait, si on regarde bien les choses, celle qui a eu la voix la plus constante, c'est quand même positif. Parce que, bon, il y a beaucoup de gens qui, comme moi, ont quand même lu à l'époque les Cahiers du cinéma. Il y a des périodes où on a été un peu défrisé. À la période brochinoise, avec des textes incroyables, nous a pas laissé des souvenirs impérissables. Donc, il y a une revue qui a toujours tenu sa ligne, et c'est positif. C'est pour ça que on est resté positivien ou positiviste. Et là, on a décidé de leur proposer aux gens de positif de nous présenter 5 films premiers, donc 5 premiers films qui avaient fait les 5 couvertures de positif. Voilà. Donc c'est un truc simple, quoi, je veux dire. Hein. Ils ont découvert ces films à cette époque-là, ils en ont fait la couverture de leur revue, et nous, on présente ces films-là.
Il faut que je parte.
Mais non.
Je dois être vers 7h au théâtre.
Ah, le théâtre. Oublie un instant le théâtre.
Je n'ai pas envie de l'oublier.
Oui, mais il faut rester avec moi parce que moi j'arrive de l'autre bout du monde.
Le premier, c'est le vendredi soir, c'est Alain Cavalier, avec Le combat dans l'île, qui est un... Beaucoup de gens ont entendu parler de Cavalier maintenant parce qu'il a fait un film qui s'appelle... Le film sur le président. Mais il a fait des tas d'autres films. Cavalier, c'est un type extraordinaire, quoi, je veux dire. Et donc là, c'est son premier film, qui est un film des années 60, dans lequel il y a Romy Schneider, Jean-Louis Trintignant et Henri Serres. Et c'est vraiment un film délicieux et particulièrement dur, quoi, par rapport aux idées de l'époque. À voir absolument. Voilà. Et donc, tous les autres films, c'est pareil. C'est des films qui sont des films de première main. Donc, Une fille à parler, le premier film de Vaida. Vaida, c'est maintenant un mec qui est très connu parce que c'est devenu une icône du cinéma. Mais à l'époque, bon, quand Une fille à parler est sortie, ce n'était pas très connu. Et une curiosité dans ce film, c'est que on y voit pour la première fois un jeune acteur qui va défrayer ensuite la chronique. C'est Roman Polanski. Il joue dans une séquence et il est...
Et là, on est en 54, hein, ce film est sorti en 54, donc ouais. Autant dire que Roman Polanski est encore en Pologne.
Oui, et que, oui ouais. Il va faire du cinéma bien après. Les poings dans les poches, ben, ça c'est un film mythique de Bellocchio qui parle de l'histoire de l'Italie de l'époque.
Sandrino, mi potresti leggere un po' la gazzetta?
E dov'è?
Non la vedi?
No.
Dai un'occhiata in giro, dovrebbe esserci. Ti dispiace?
Ma no, mamma, cosa vuoi che mi dispiace?
Toujours pareil, hein, ça c'est les années 60.
Donc dur, ça, 65.
Mais, voilà, dur, mais très intéressant. Le plus beau film avec Faye Dunaway, qui est le portrait d'une enfant déchue, que Schlesberg a fait à ce moment-là. Vraiment, un film qui est un film... D'un désespoir total. Faut le voir, quoi, je veux dire. C'est vraiment un film extraordinaire. D'une facture et tout. Et Faye Dunaway, dedans, elle est absolument... Jamais elle a été après comme elle était dans ce film.
I know I am not perfect.
Perfect, huh? You're absolutely perfect. That's it, that's great. That's it. Hold it. Now a little looser. That's it. You know, like that. Now, you gotta make it, baby.
Et ça, c'est un film de Jerry Schlesberg. Voilà.
Et pour finir, Tarantino, le premier film de Tarantino, salué par Positif, Réservoir Dogs. Pulp Fiction, c'est pas son premier film. Quoi,
non, je veux
dire. Beaucoup de gens ne savent pas.
Monsieur Brown, Monsieur White, Monsieur Blanc. Monsieur Blue, Monsieur Orange et Monsieur Pink. Et
pourquoi Monsieur Pink?
Parce que t'es une pédale, ok?
C'est une manifestation un peu... qui a l'air de rien, mais qui est vraiment importante. Et surtout, de cette importance des revues de cinéma. Parce que beaucoup de gens savent très bien qu'on va voir un film, on ne sait pas trop quoi en penser. Une revue de cinéma, ça permet de se débloquer l'esprit. Quand on parle d'un film, on ne fait que raconter l'histoire. Mais des fois, une petite phrase sur quelque chose dans le film qui vous a frappé, c'est ça le ciné-club. Tout d'un coup, ça développe et ça dégage autre chose, une autre manière de voir le cinéma.
En tout cas, ça éclaire effectivement les films, ça peut les contextualiser. Et puis, on peut peut-être parler de cette revue Positif un peu plus, parce que j'ai lu que c'était une revue qui était ouvertement de gauche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une revue ouvertement de gauche?
Ça ne veut rien dire du tout. Les gens, si tu veux... Et est-ce que les Cahiers du cinéma sont une revue ouvertement de droite?
Non, sûrement pas.
Voilà, donc ça ne veut rien dire. Ouvertement de gauche, ça veut dire, si tu veux, que la revue Positif, quand elle a commencé dans les années 50, c'était une revue qui était marquée par un courant du cinéma. Et ce courant du cinéma, c'était le courant surréaliste. Voilà. Donc il y avait Adokuiro, il y avait des gens comme ça qui travaillaient à la revue. Et donc, elle a été marquée de gauche parce qu'elle était... Mais aujourd'hui, surréalisme n'est pas considéré comme un truc de gauche. Le surréalisme, c'est un truc qui est normal, en quelque sorte, je dirais. Voilà. Mais donc, à l'époque, c'était de gauche, parce que vraiment... voilà. Et puis, c'est une revue qui parlait des mouvements qui avaient lieu dans le monde et tout ça, du point de vue de la libération des peuples et tout. Bon, c'est pas non plus un truc négatif. Voilà.
Positif, c'était aussi parce que dans les idées théoriques qu'on n'applique jamais, on se dit on dira du bien des films. On n'éreintera pas, on va essayer de voir le côté positif. Et puis alors, il y avait aussi l'aspect un peu social. Ça. À l'époque, on était engagé. Donc on se disait, tiens, on va essayer de voir le cinéma, pas seulement comme une mise en scène, comme ça, de forme, mais comme aussi... comment on parle de problèmes humains, humanistes. Donc le côté positif avait aussi une résonance un peu politique. Comme ça.
Là, on va avoir le plaisir de recevoir...
Oui, les invités, c'est important.
Deux invités, très importants, trois invités. Bon, Alain Cavalier, qui viendra le vendredi pour la présentation de son film. Ça va être intéressant de parler avec lui sur ce combat dans l'île. Parce que, quand même, Cavalier, c'est un type bizarre. C'est vraiment un type bizarre. Qui a toujours été un peu en marge du cinéma français, mais qui a toujours été prégnant sur ce cinéma-là. La deuxième chose, c'est qu'on aura donc deux critiques de Positif qui seront là, et non des moindres, puisqu'on aura Michel Simon, qui... Alors, vous savez qu'à la rue Positif, il n'y a pas de chef. Donc, il n'y a pas de rédacteur en chef. Voilà. Il y a des rédacteurs et tout ça. Bon. Michel Simon, qui est un ami du festival, il est un grand critique de cinéma. Voilà.
Grand spécialiste de Kubrick aussi.
Hein, Kubrick, voilà. Il a fait Risi, il a fait Wilder. Enfin, je veux dire, c'est un type extraordinaire. Quoi. Et Alain Masson, qui est quelqu'un aussi qui a beaucoup... Si vous voulez... Ce qui est intéressant dans ces gens de cinéma, de critiques de cinéma, c'est que ce n'est pas des gens qui parlent du tout venant. C'est des gens qui vont chercher dans le cinéma quelque chose toujours qui est un peu spécifique, particulier, et qui fait que tout d'un coup, on a vu un film comme eux, et puis on se met à réfléchir autrement que comme on réfléchissait quand on est sorti. Voilà, ça c'est une vraie question. Parce que la vraie question pour beaucoup de gens qui vont au cinéma, c'est je vais au cinéma, je sors, on se raconte l'histoire, et puis on va se coucher. Quoi. Et des fois, tu te dis, quand tu vois Life of Tree, par exemple,
de
Terrence Malick, tu te dis, ça, c'est peut-être que je pourrais, c'est pas uniquement parler de l'histoire que j'ai vue. Quoi. Parce que peut-être qu'il y a autre chose dedans. Et oui, il y a autre chose dedans. Dans un film... qui est bien fait, il y a toujours autre chose dedans. Il y a une partie qui est directement accessible, qui est le cinéma tel que on va le voir, et puis bon, avec le côté distrayant ou culturel même. Une histoire, une aventure, un truc. Et puis il y a aussi l'histoire de l'art. Et ces critiques de cinéma, comme Michel Simon et Alain Masson, c'est des gens qui parlent de l'histoire de l'art. Et c'est pour ça que ce week-end va être intéressant pour eux.
Donc c'est le week-end Positif, donc en présence du réalisateur Alain Cavalier, de Michel Simon et d'Alain Masson. C'est ce 30 et 31 mars au Centre Rabelais, c'est évidemment à Montpellier. Et donc vous y serez, et on pourra donc...
on pourra se voir.
Voilà. Merci beaucoup Henri Talva.
Bonjour, je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu. Allez, bon cinéma.
On aurait bien aimé l'avoir avec nous en direct, mais comme vous avez pu l'entendre avec ce petit souffle perturbant, cette émission a été, enfin, cet entretien a été enregistré hier et on espère avoir Henri Talva bien à nos micros avant la fin de la saison de Cinérama. On poursuit en musique avant de retrouver une chronique sur Hunger Games et puis l'interview de Merzak Alouache avec Paolo Conte. C'est parti.
Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows, that's how it goes, everybody knows.
Oui, et donc c'est pas Paolo Conte, évidemment, c'est Leonard Cohen, le titre c'est Everybody Knows, et c'est tiré de la bande originale d'Exotica, film d'Atom Egoyan. Oui, Goyan, voilà, canadien, fort talentueux, qui ne fait plus beaucoup de films actuellement. Et c'est bien dommage, en tout cas. C'est un réalisateur qui a fait beaucoup de films dans les années 90, avec un style bien à lui. C'est Cinérama, et tout de suite, c'est Hunger Games.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule.
Cinérama.
Je suis allergique.
Sur Divergence FM.
Hunger Games, c'est ce qui se passerait si TF1 ou M6 décidaient un jour que les ébats dans la piscine pour la télé-réalité, ce n'est plus assez vendeur. Dans cette dictature dystopique, l'État envoie chaque année deux adolescents de chaque district dans un jeu télévisé barbare au cours duquel ils devront s'entretuer. Le film de science-fiction rejoint ici la mythologie grecque et plus spécifiquement la légende du Minotaure à qui l'on donnait en pâture de jeunes garçons et de jeunes filles. Un excellent film nommé Battle Royale avait déjà été fait sur le même thème, puisque l'on y voyait une classe de lycée indisciplinée se retrouver sur une île déserte pour faire une chasse à l'homme. Battle Royale dont la catchline était... Ah bah d'accord, ok, je vois qu'on m'écoute hein, quand je parle, merci. Avez-vous déjà tué votre meilleur ami? Ok. Donc la comparaison étant vraiment flagrante, on peut de manière presque certaine attribuer le plagiat à Suzanne Collins, l'auteur des romans Hunger Games, puisqu'elle n'a publié qu'en 2008. Mais le second degré, qui faisait tout l'intérêt du film de Kinji Kunasaku, est ici remplacé par une puissance dramatique qui force l'identification.
Bienvenue, bienvenue. L'heure est venue de sélectionner le courageux jeune garçon et la courageuse jeune fille qui auront l'honneur de représenter le district 12 au 74e Hunger Games annuel.
C'est ta première année, Prime. Ton nom ne sera marqué qu'une fois. Impossible que ça tombe sur toi.
Ils veulent juste du spectacle, c'est tout ce qu'ils veulent.
On va être 24, Gail, et un seul en sortira vivant. Vous êtes là pour me rendre jolie?
Je suis là pour que tu leur en mettes plein la vue.
Il a été décrété que chaque année, les 12 districts de Panem offriraient en tribut un jeune garçon et une jeune fille âgés de 12 à 18 ans afin qu'ils soient entraînés à l'art de la survie et préparés à se battre jusqu'à la mort.
C'est le moment de tout donner. Débrouille-toi pour qu'il ne t'oublie pas.
5, 4, 3, 2, 1...
Je sais pas vous, mais moi je trouve que la bande-annonce met déjà en transe. Enfin bref. Rendant parfaitement palpables les émotions de ces jeunes protagonistes, le cinéma d'action prend ici une nouvelle envergure et permet une identification très forte qui rend le scénario extrêmement prenant. Tout est fait et bien fait pour se sentir au cœur du film. Un son minutieux, une caméra parfois subjective qui cadre avec brio. Et Hunger Games a l'intelligence de tenir un double discours en nous mettant tout autant à la place de l'héroïne et à celle des spectateurs avides de spectacles sanglants. Tout en dénonçant le principe de ces jeux du cirque, il nous rappelle à notre voyeurisme primaire en le satisfaisant par une bonne dose de cruauté. Cette métaphore de la télé-réalité actuelle est maintenue jusqu'au bout, puisque la première heure du film, plutôt bavarde sans pour autant être statique, est consacrée au démantèlement de ses mécanismes et à la critique de ses procédés. Hunger Games évite heureusement le formatage du film pour ados à la Twilight, qui lui se définissait quand même par une morale assez nauséabonde et une vision de l'adolescence totalement réac. Ici, pas ou peu de morale, et les images ne font pas l'économie de la violence. On a d'ailleurs droit en France à une version heureusement non censurée, contrairement aux pays anglo-saxons qui ont fait éliminer numériquement toutes les traces de sang. Oui, parce que c'est bien connu, quand on tue quelqu'un, il n'y a pas d'hémoglobine, il y a des petits papillons qui s'envolent comme ça. Alors bien que le casting soit un vrai fourre-tout, la distribution reste crédible. On trouvera aussi bien Lenny Kravitz que Stanley Tucci, le tueur né Sam Worthington, Donald Sutherland ou encore Wes Bentley. Souvenez-vous, il s'agissait du jeune homme bizarre qui filmait sa voisine dans American Beauty. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mmh. Et puis, le film ne serait pas aussi réussi sans son excellente actrice principale, Jennifer Lawrence, que l'on connaît peu puisqu'elle est issue du milieu indé du cinéma américain, mais qui remplace avantageusement les dizaines d'actrices blondes et insipides qui auraient pu tenir le haut de l'affiche. L'univers imaginaire de Hunger Games use de similitudes avec notre propre monde pour exprimer une critique sociétale à peine masquée. Les mineurs doivent se tuer au travail pour approvisionner les riches de la capitale et leur empereur despotique en charbon, ce qui fait du film un intéressant mélange entre Germinal et Gladiator. Les gens de la capitale ont tous l'apparence de drag queens frivoles, ils s'appellent César ou Sénèque, en opposition aux pauvres provinciaux et le combat des participants au jeu qui doivent éliminer jusqu'à leurs propres amis pour arriver vainqueurs évoque une certaine réalité sociale de notre monde capitaliste. Bref, tout ça fait que c'est un excellent divertissement qui dit quand même pas mal de choses sur notre monde actuel. Moi, je vous conseille vraiment vivement de le voir. Et je pense qu'avec l'actrice, la Jennifer Lawrence, on tient une nouvelle Scarlett Johansson. Voilà, la comparaison peut paraître un peu étrange, mais finalement, les deux actrices ont commencé pareil dans des films assez indépendants, assez intimistes toutes les deux, avant de se faire révéler au grand public. Elles ont un peu le même genre de physique. Et Jennifer Lawrence a vraiment énormément de talent. Donc je pense que d'ici quelques années, elle va exploser.
Eh bien, merci Marine. On retrouve ça dans quel cinéma, ça ?
Au Gaumont, Multiplex. Ouais. Et si vous voulez le voir en VO, ce que je vous conseille aussi, c'est Gaumont Comédie.
C'est parti pour Marzak Alouache.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis. Et même saloperie. Hein.
Sur Divergence FM.
Marzak Alouache est un réalisateur algérien que l'on connaît pour son film Chouchou avec Gad Elmaleh ou encore Salut Cousin quelques années plus tôt. Mais la comédie n'est plus ce qui intéresse Merzak Alouache. L'an dernier est sorti Araga, du nom de ces immigrants algériens qui traversent la Méditerranée sur des embarcations de fortune. Et son dernier film, Normal, apparaît comme un documentaire, mais c'est en fait une fiction. Le réalisateur souhaitait alors au départ réaliser un documentaire autour du festival panafricain qui s'est déroulé à Alger, une grosse manifestation qui, selon le réalisateur, est vide de sens. Un documentaire qui s'est transformé donc en film. Il voulait confronter à ce gâchis d'État l'histoire d'un jeune homme qui souhaite monter une pièce de théâtre, mais qui se confronte à la censure. Pas satisfait du montage, il laisse tomber le projet, mais 2 ans après reprend la production du film en réalisant une mise en abîme. Dans Normal, on voit les images de ce premier film avec les acteurs qui y ont participé, mais dans cette nouvelle fiction, il y a un jeune réalisateur qui lui aussi a abandonné un projet de film et qui veut reprendre le tournage en intégrant les manifestations de plus en plus nombreuses dans la rue. Alors il convoque les acteurs du précédent film pour leur demander de reprendre donc le tournage dans ce contexte politique et social. Il montre des images déjà tournées et le débat s'installe sur la censure, la jeunesse, ce qu'on peut faire ou ne pas faire dans l'Algérie actuelle. Ce qui fait que le film est très bavard, les images plutôt âpres, un film pour provoquer le débat en Algérie, mais qui n'intéressera pas forcément les spectateurs français. Alors on sent l'urgence chez ce grand réalisateur algérien à faire du cinéma sans les contraintes de la forme et de la production, une urgence qui est transcrite dans Normal. Et on va écouter Merzak Alouache nous parler justement de cette urgence. Et puis on prendra un exemple de la censure, voire même plus de l'autocensure des productions algériennes, avec la scène du baiser qui fait polémique dans le film et qui n'était pas limpide non plus pour l'actrice qui était présente à l'interview, Adila Bendimerad.
ناقش نقصر على الفيلم جي فرانشمون جي ميم با لا فورس دو مو كونسونتري على هذاك الشيء.
Aujourd'hui, c'est très difficile qu'une cinématographie d'un pays se mette en avant comme ça sur des bases classiques. Donc moi j'espère que ce film, surtout en Algérie, parce que c'est pas un film que je vois comme mes autres films où j'ai une appréhension sur la sortie, sur le public, etc. C'est pas mon problème. Mon problème, c'est que si le débat peut se continuer en Algérie, surtout sur les problèmes qu'on pose et sur le désarroi de ces jeunes. Et j'espère aussi que quand le film passera dans certaines salles en France, qu'il puisse y avoir aussi des émigrés, des enfants d'émigrés qui viennent et qui se posent des questions sur ce qui se passe dans leur pays, parce que ces jeunes partent dans leur pays en vacances, etc., mais souvent ils ne voient rien de ce qui se passe.
Allez, ça sera une occasion pour nous rencontrer avec d'autres comédiens, d'autres artistes, pour nous rencontrer. J'ai envie de retravailler le film, madame.
Mais t'as envie de retravailler le film, mais le film, tu peux le retravailler après. Elle a déjà senti la nicharja.
Dans votre film, il y a très peu de musique, me semble-t-il. 2-3 morceaux, hein. Donc absence de musique, beaucoup de dialogue. Donc une espèce de récit enchâssé, hein, puisqu'il y a une équipe qui regarde des images qui ont déjà été tournées. Alors vous avez choisi finalement de mettre l'image sur le même plan, c'est-à-dire que c'est le même grain pour ce qui a été tourné par l'équipe et puis ce qu'on voit nous dans la fiction. Alors c'est un choix délibéré, j'imagine ?
Oui, c'est pas un film où on a travaillé sur l'esthétique. Bon, c'est un film où la caméra bouge, où on a tourné sans lumière, on a tourné en automatique.
Presque du dogme.
Hein?
C'est presque du dogme à la Lars von Trier, alors.
Oui, voilà. C'est du dogme sans le dogme, puisque c'est antidogmatique. C'est-à-dire que là, par exemple, j'aimerais discuter avec les jeunes cinéastes, en particulier algériens, sur justement comment faire un film très vite, parce qu'on n'a pas le temps maintenant de perdre 3 ans à écrire un scénario, d'attendre le 35 mm. Vous savez, dans un pays comme l'Algérie où la situation est difficile, où il n'y a pas de moyens, etc., je rencontre encore des jeunes qui attendent que leur sujet soit très carré, que leur histoire soit très carrée. Ils aimeraient tourner en 35 et je leur dis, mais pourquoi vous attendez le 35, etc. Il faut tourner vite. Il y a aussi un apprentissage à faire sur le cinéma du 21e siècle justement, pour revenir à cette histoire d'Internet. C'est-à-dire que c'est ce qu'on raconte qui est vraiment le plus important. Je ne sais pas, moi, on était à Doha, on a présenté notre film au festival de Doha. L'ouverture du festival s'est faite avec le film de Jean-Jacques Hano, L'or noir, des milliards, etc. Tout le monde sort de ce film en disant bon, ça nous plaît pas, ça nous apporte rien, etc. Donc on se dit, bon, oui, il y a toute la technologie, il y a tous les trucs, mais si ce qu'on raconte est artificiel, si, ben, ça ne marche pas, quoi, voilà.
هاد لاسين مانيش حاس بيها
كيف ما راكش حاس بيها
ما رانيش حاس بيها انا باكي بلي فيونسي وما رانيش قادر نخدم هادشي
فيونسي الوغ لا بروميير فوا كي عطيت لك تقرا سيناريو ماشي كان عاجبك الحال وقلت لي راني قابل
خلاص راني
جوي زان اكتور لا ممثل نورمال
ودي راكي قاعده دوكا 10 سنين مع هاد لا كاميرا وزيدت لك هادي جايه من فرنسا وما على باليش انا حبيت تحط لسانها في فمي
خلاص خليه يروح
انا رخيص وطحان
انا
رخيص وطحان قادر يروح
Il y a cette fameuse question du baiser hein, qui est présente dans Normal, puisque dans le film donc, qu'on voit à l'intérieur de cette fiction, il y a une séquence de baiser. On voit les réactions ensuite. Donc ceux qui ont tourné le film à l'intérieur de votre fiction ont pris une actrice française pour cette possibilité finalement.
Pas
de...
française, émigrée quoi.
Émigrée, oui. Ouais. Et donc voilà, parce qu'elle serait la seule susceptible de tourner un film avec un baiser. Est-ce que ça, c'est encore des questionnements qui sont dans le cinéma algérien et on pourra poser la question évidemment à l'actrice.
Ce passage du baiser a été très très dur, à créer une virulence, et une virulence même de la part de ces fameux journalistes hein, qui écrivent, des journalistes qui écrivent même en français, etc., et qui étaient outrés. Bon, alors, je ne sais pas si c'est fondamental chez eux ou si c'est pour attaquer le film, mais en tout cas, cette séquence est révélatrice aussi de l'état d'esprit qui existe en Algérie concernant la sexualité, concernant le rapport homme-femme, concernant la place qu'on veut donner à la femme en Algérie.
Pour une actrice, est-ce que c'est compliqué, voilà, puisque vous êtes actrice, de tourner un baiser ?
Non, un baiser non, puisque je donne un baiser dans une pièce de théâtre que je joue en ce moment, qui est inévitable, c'est dans Les Mille et Une Nuits. Donc, la question de la sexualité, maintenant qu'elle soit montrée directement ou indirectement, c'est une question quand même importante, parce que c'est là où se jouent les plus grandes histoires qui racontent... une histoire de vie ou de mort, puisque c'est par là que vient la mort et c'est par là que vient la vie aussi.
Et qu'est-ce qui se passe dans la salle quand le public assiste à cette scène où il y a un baiser ?
Justement, en parlant des Mille et Une Nuits de Tim Supple, qui est un metteur en scène anglais, on joue en arabe avec des acteurs arabes, sauf qu'on joue aux États-Unis, on joue à Sydney. Et par contre, effectivement, Tim avait rencontré de vraies difficultés à... raconter et montrer la sexualité dans un spectacle qui dure 6 heures, et Les Mille et Une Nuits, c'est des contes arabes qui parlent que de sexe, de mort et de politique. Donc comment ça se fait que maintenant des Arabes n'osent plus raconter ces histoires-là, alors que c'est quand même ce qui a bercé leur culture ? Mais je reviens encore à la censure, l'autocensure, la difficulté de se voir dans un miroir. Bien sûr que si on refuse la sexualité, qui est une question de vie ou de mort, ben on refuse aussi de se regarder dans une classe. Et c'est toute la question de la censure. Maintenant, j'ai pu donner un baiser sans trop me poser de questions au théâtre. Mais au cinéma aussi. Enfin, ça m'est encore jamais arrivé au cinéma. Mais voilà.
Tu hésiteras.
Ah, pour un baiser ? Non, pas pour un baiser, non. Non. Après, il y a aussi... Moi, je respecte aussi le fait qu'il y ait des gens qui n'osent pas, parce qu'il ne s'agit pas de traumatiser les gens aussi. C'est qu'il y a une raison à ce qu'on ait peur. Pourquoi ces actrices ont peur ? Et pas seulement les actrices, mais aussi des hommes ont peur. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils payent, eux, après ? Parce que nous, il faut savoir qu'en tant qu'acteurs, on n'est pas protégés. Alors, je comprends qu'un réalisateur comme Mulzer et d'autres aussi sont un peu en colère après nous, les acteurs, à avoir un peu peur d'être nus. Moi, par exemple, le nu me fait très, très peur, parce que je pourrais jamais... Parce que j'ai aussi une vie sociale, et je pourrais jamais surmonter... Je suis pas un héros, quoi. Je pourrais jamais surmonter les violences auxquelles je m'exposerais, mais peut-être auxquelles j'exposerais les miens. Ça, j'ai pas trop le droit. Et j'ai plus envie de discuter cette question et comprendre pourquoi, parce que j'ai pas envie de traumatiser les gens non plus, les acteurs. Du coup, je suis un peu solidaire avec les actrices. Dans leur choix, je peux comprendre.
Voilà, c'était Adila Bendimerad et Merza Kalouache. Alors on sent un peu le fossé entre le discours d'Adila et Virginie Despentes.
J'allais dire, il y a quand même un virage assez radical.
Ouais, oui. Donc voilà, c'est un film autour des questions de l'Algérie actuelle. Voilà, vous pouvez quand même tenter le coup. C'est au Diagonal et puis c'est aussi à Lunel. C'est demain à 18h30 à l'Athénée Lunel, suivi par La Désintégration de Philippe Faucon. Et ça, c'est à 21h. Donc La Désintégration qui sera suivie aussi d'une rencontre avec le comédien de La Désintégration. Qui s'appelle... alors, il s'appelle Debbouze, ça c'est sûr, mais son prénom, je ne l'ai pas retenu, en tout cas, c'est le frère de Jamel.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes.
On arrive à la fin de Cinérama, on va passer à l'agenda. Le Ciné Mistral, demain, propose à 20h30 la projection du film The Artist de Michel Hazanavicius, évidemment, suivi d'une discussion avec le danseur de claquettes Fabien Ruiz. Qui a été coach de Jean Dujardin, donc il va faire des petites démonstrations. Et ce sera aussi le cas le lendemain au cinéma Nestor Burma, pareil, hein, c'est la même histoire, la projection du film et puis le danseur de claquettes. Demain, au cinéma Diagonal, c'est une avant-première, Le Fils de l'Autre de Lauren Levy, c'est à 19h50. Et puis on peut parler d'un festival du 31 mars au 1er avril à Montpellier, c'est le 8e festival international du film sur l'argile et le verre.
D'accord, c'est pour ça que ça ne dure qu'un jour en fait. Voilà, le 31 mars au 1er avril, ça fait assez court.
Ça fait deux jours, oui. Alors voilà, je vais vous allécher un peu des films documentaires ou fiction sur l'argile et le verre, projection ponctuée par des moments d'échange et de rencontres avec des professionnels et amateurs venus du monde entier. Le dimanche 1er avril à 11h, c'est une avant-première sur la piste du Marsupilami, film d'Alain Chabat, c'est au Gaumont Comedy Multiplex. C'est une avant-première qui, à mon avis, va beaucoup attirer, donc il vaut mieux réserver. Sinon, le lundi 2 avril à 14h, c'est Un condamné à mort s'est échappé, premier film, je crois, de Robert Bresson, moi qui m'avait complètement fasciné. Donc 14h Diagonal. Ensuite, c'est au Centre Rabelais à 18h qu'a lieu la soirée Flair avec le film 200% de Nicolas Boone et Olivier Bosson. C'est un film de fiction avec 60 acteurs et 300 figurants de Saint-Fons au sud de Lyon. Donc c'est une espèce de film qui a été fait avec des gens du quartier. Et la projection sera suivie d'une discussion avec Olivier Bosson. Et puis maintenant, on va parler de ce qui se passe à l'Utopia. Ce dimanche 1er avril à 10h30, avec le réseau Sortir du Nucléaire, il y aura une rencontre avec Thomas Borel, qui est vice-président de Survie France, association de lutte contre la France-Afrique, pour la présentation du livre Areva en Afrique, une face cachée du nucléaire français, avec la projection d'un documentaire Qui sème le vent, documentaire autour de la présence d'Urania au Niger sur fond de prise d'otages, Urania étant une société qui extrait de l'uranium. Une séance unique le lundi 2 avril, j'ai pas noté l'heure, ce sera Le jeu de la mort qui sera projeté. C'est un documentaire qui était déjà passé à la télévision autour d'une expérience scientifique déguisée en jeu qui transforme les joueurs en bourreaux. Voilà, il y a un jeu, il y a quelqu'un qui doit répondre, mais c'est un comédien et ça, les joueurs ne le savent pas.
Oui,
et
oui.
S'il donne la mauvaise réponse, on demande...
On voit une bonne décharge électrique.
Une bonne décharge, voilà, c'est ça. Donc il y aura une discussion autour de ce documentaire. Et puis le Ciné Campus, le mardi 3 avril à 20h30, une soirée présentée par Bérénice Belpère, qui est spécialiste en animation, issue de l'école Boule et des Gobelins. Et ce sera la projection de Mary and Max. Et ça, donc, c'est à l'Utopia. Et puis, passe toujours dans ce cinéma Utopia, L'ombre de la République, Elena, et Si on vivait tous ensemble, Les nouveaux chiens de garde, Martha, Marcy, May, Marlène, Mary and Max, donc ça, j'en ai parlé, Millennium, Oslo, 31 août, Terra Firma, The Artist, The Descendants, Une bouteille à la mer, Il y a pire ailleurs, et Zarafa.
J'ai retrouvé son nom, l'acteur de La Désintégration s'appelle Rachid Debbouze.
Rachid Debbouze.
Et on va préciser que mercredi prochain, sur la piste du Marsupilami, eh bien, on vous en parlera.
Oui.
Parce qu'on avait rencontré Alain Chabat et Fred Testo.
Il y a voilà. Déjà un petit moment.
Petit moment, et maintenant c'est l'occasion de vous faire partager l'interview que nous avions faite.
Et moi, en ce qui me concerne, moi, ça m'a fait rire, donc voilà.
Donc enfin,
je suis assez client de l'humour d'Alain Chabat.
Même moi, ça m'a fait rire.
Ah, même toi. Et puis sinon, on parle rapidement d'Eva, alors Quique Mayo, qui est un nouveau réalisateur, c'est son premier film.
C'est son premier film,
voilà,
réalisateur espagnol.
Film de science-fiction, alors réalisateur espagnol, mais très, enfin, c'est étonnant, on a l'impression que ça se passe plutôt en Ukraine, hein. il fait mauvais temps, il y a de la neige, et on est projeté en 2041-42,
oui. Le décor est assez surprenant, un décor enneigé, montagneux, et donc, alors le film est bancal sur le plan du scénario.
Du scénario, voilà. Effectivement,
on est d'accord. Avec un twist prévisible qu'on anticipe quand même dès le départ. Mais à côté de ça, je trouve que c'est quand même, je sais pas, je trouve que c'est un joli film qui a une ambiance assez prenante.
Bah, y a une petite, enfin voilà, c'est très mélancolique. Alors on est avec des personnages qui sont des scientifiques qui mettent au point des robots ils cherchent à faire des robots qui s'approchent le plus possible des humains. Alors on a l'impression que c'est plutôt réussi. Et donc le personnage principal revient dans sa ville 10 ans après et on lui demande de faire un enfant robot. Au plus proche de ce que pourrait être un enfant humain. Voilà.
Oui, ou plus proche de ce que lui voudrait, comme enfant, en fait. Hein, puisque s'il y a un rapport entre ce personnage, Alex, et puis une envie d'avoir un enfant, un enfant à lui, en fait. Hein. Il y a une relation donc, entre Eva et Alex, qui est une relation père-fille assez émouvante, je trouve.
Et le film appartient à quel registre, en fait ? Science-fiction ou thriller ?
Non, science-fiction.
Science-fiction, mais science-fiction.
Les éléments SF apparaissent vraiment par petites touches. Il y a un chat robot, enfin, on ne voit pas trop, il n'y a pas de décor futuriste du tout. Et c'est vrai que si on ne sait pas que ça se passe en 2041, on peut penser que ça se passe aujourd'hui.
Ouais. Oui, les voitures sont simplement des vieilles Volvo déguisées en voitures électriques. Enfin, voilà, voilà. Enfin, en tout cas, l'univers est intéressant. Après, le scénario, c'est un peu moins bon.
Le film de Spielberg est passé par là.
C'est clair.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
La semaine prochaine, on parlera du festival du cinéma d'animation de Bayargues et on écoutera une interview d'Alain Chabat.
Et tout de suite après, vous avez rendez-vous avec 24 notes secondes qui, cette semaine, vous parlera de Vincente Minnelli.
Eh bien, merci, à la semaine prochaine.
Merci. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints. Il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées. Ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.